C'est le retour de Vivien, j'allais dire Fabien. Bonjour Vivien.
Salut.
Ouh là, la voix, la pêche.
Ah bah oui, quand même, après 2 mois d'été à se reposer, un confinement qui a été profitable aussi, je suis en forme.
Ah bah oui, je vois que là... Alors, on a eu le temps de lire des belles choses pendant ce confinement.
Alors oui et non, parce que pendant le confinement, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés, puisque le planning des sorties a été totalement chamboulé dû à une pandémie mondiale qui a tout bouleversé. Mais la rentrée est là aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour les écoliers de s'atteler à leurs tâches scolaires, on va dire. C'est aussi le cas de la rentrée littéraire et de la rentrée en bande dessinée, puisque du coup, tous les éditeurs ont commencé à sortir leurs nouveautés à partir d'aujourd'hui et un peu la semaine dernière aussi quand même.
D'accord. Alors aujourd'hui, je vois sur votre table à côté la pionnière. C'est de ça qu'on parle ?
C'est ça, c'est de ça qu'on va parler. C'est le tome 2, après un tome 1 qui est sorti, je crois, avant confinement, qui parlait de Anita Conti. C'était la première océanographe. La collection se vantant de promouvoir les pionnières dans leur domaine s'attaque cette fois-ci au journalisme avec Nelly Bly.
C'est une journaliste.
Oui, absolument.
D'accord. C'est paru aux éditions Soleil.
C'est bien ça.
Très belles éditions. Alors, pourquoi ce choix, monsieur Vivien ? Parce qu'elle vous a marqué, celle-là ?
Alors, j'avais parlé du premier tome pour Bande Dessinée Info. Et c'est un tome qui m'avait plu, mais qui était un peu, on va dire, entre deux eaux.
D'accord.
Les océanographes. Entre deux eaux, c'est un jeu de mots que je viens de faire. En fait, voilà, ce tome m'avait plu, mais m'avait pas non plus transcendé. Et en fait, ce tome 2, j'étais surpris de le découvrir. Enfin, j'avais impatience de le découvrir parce que je me suis dit, est-ce qu'ils vont arriver à donner un petit coup de fouet à la saga ? Eh bien, c'est le cas avec cette journaliste qui va user de d'ingéniosité pour s'imposer dans ce monde d'hommes du début du XXe siècle.
D'accord, un monde d'hommes. Ça veut dire quoi ?
Eh bien, en fait, elle va, après avoir fait plusieurs reportages à sensation pour l'époque, hein, elle va décrire les conditions de travail dans les usines, elle va parler de certaines conditions de vie dans certains pays d'Europe notamment. Elle va se retrouver aux États-Unis et pour être engagée dans un célèbre journal, elle va faire un deal avec le rédacteur en chef et lui dire bah, si tu arrives à intégrer un asile de fous et à en sortir et à faire un papier là-dessus, et ben je t'engage.
Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'à un moment, on est dans un asile.
Absolument.
Sur la planche, tiens, qu'on va essayer de montrer à l'antenne maintenant, là. Enfin, sur la vidéo. Hop. Ah oui, c'est très belle ambiance quand même, hein, au niveau du dessin. Et de...
Voilà, c'est assez noir, mais ça montre vraiment les réalités de l'époque.
Quoi de neuf ? Comment vous avez trouvé ce roman, monsieur ?
Alors, c'est pas un roman, c'est une bande dessinée.
Oui, mais pour moi, c'est un roman graphique, on va dire.
J'ai beaucoup aimé le scénario. Parce que pour le coup, on va montrer les réalités de l'époque, que ça soit au niveau de cette société qui est très patriarcale pour l'époque. On est début du XXe siècle, l'homme au sens masculin est omniprésent, et ça va montrer ce que c'est qu'être journaliste. Avec un E, si je peux m'exprimer. Dans cette époque-là, on est loin des standards qu'on connaît actuellement, avec des journalistes féminins qu'on connaît, qu'on voit au journal de 20h, qu'on voit tous les jours, qu'on connaît parce que, Valérie Trierweiler, qui a été première dame pendant un temps, est journaliste et ça choque personne.
Et licenciée.
et qui a retrouvé un travail derrière.
Et qui pleurait d'ailleurs, oui, c'est vrai.
Et en fait, on va voir tout ce cheminement qu'on fait, notamment. Des gens comme Nelly Bly pour que cette profession soit une profession de femme et qu'elle soit crédible aux yeux des hommes. Et c'est plutôt bien fichu, puisque on va voir tout son travail au sein des usines et ce deal qu'elle va faire, qui est assez fou, parce que pour l'époque, les asiles de fous, c'est pas forcément très bien vu. Et puis, disons que le tome nous montre qu'on y rentre facilement, sort pas forcément les pieds devant, voilà. Et en fait, puisqu'il suffit d'une dénonciation de son mari, de sa famille, pour finir en asile, c'est le cas de ses compagnes d'infortune, entre guillemets, puisque ben, quand elle est dans le couloir où elle va se resculter, ben, en gros, Mademoiselle Bidule, elle est présumée folle parce que son mari, en fait, il ne veut plus d'elle.
Oui, parce qu'il a déclaré qu'il...
Voilà, elle était folle, donc voilà. Et en fait, elle va... déceler un peu tous ces rouages-là et puis voir les réalités sordides de cette époque-là, des asiles de fous où on va humilier, où on va molester les patientes parce que ben, façon elles sont folles, quoi. Donc, de toute façon, elles valent moins que rien.
Ça rappelle un peu l'histoire de Camille Claudel, quand même.
Voilà, c'est ça. C'est très bien rendu. Le scénariste Jarry avait fait une série que j'avais beaucoup aimée qui s'appelait La Rose de la Croix, toujours chez Soleil. Et en fait, voilà, il manque beaucoup de réalités de l'époque et c'est plutôt intéressant du coup parce que eh ben, ça donne envie de s'intéresser à plein de domaines, que ce soit le monde du travail, le monde hospitalier en général. Et c'est vraiment plutôt bien fichu. Et puis, ça montre la détermination sans faille de cette jeune femme qui va tout faire pour écrire son article et montrer les réalités de l'époque.
Bien, bah, tu as l'air complètement à fond.
Ben, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Vraiment, pour le coup, autant le premier tome monté, ben, l'océanographie, c'était pas forcément quelque chose qui parle à tous. Mmh. Voilà. Même si c'était aussi une pionnière et c'était quelque chose de super important. Mais c'est pas un truc qui parle à tout le monde, pour le coup. Là, le journalisme, c'est un truc qu'on connaît tous, de près ou de loin. Et pour le coup, c'était assez bien fichu.
Le dessin, est-ce que ça t'a motivé, le dessin?
Alors, le dessin est ultra, ultra réaliste. Il est doux. Moi, c'est ce que j'ai aimé. On voit à la fois la douceur et la candeur de la journaliste qui, même si elle est, qu'elle affronte des réalités qui sont sordides, qui sont pas vraiment très avenantes, on voit vraiment à la fois ben, vraiment, vraiment sa douceur, une espèce de regard bienveillant sur le monde, même si elle décrit des réalités qui ne le sont pas forcément.
Un monde qui n'est pas tout rose, évidemment.
Voilà, c'est ça. Et surtout, ce qui est frappant, c'est le travail du dessinateur sur l'expressivité des regards, que ce soit les infirmières qui sont un tout petit peu sadiques, certaines, ou alors le regard des hommes qui est dédaigneux vis-à-vis de la femme. Il y a tout un passage au début du tome où il y a un patron d'un journal anglais qui lui explique que, de toute façon, les femmes journalistes, ce n'est pas vraiment des journalistes, elles sont uniquement là pour parler des potins mondains et de la rubrique de la cuisine, en fait.
Oui, voilà. Surtout des femmes, quoi.
Voilà, c'est le rôle de la femme. Et en fait, non, elle va dire non, je suis là pour parler de la réalité de l'époque.
Oui, mais c'est aussi une époque où on voit justement des femmes extraordinaires.
Oui, il y en a énormément.
Aviatrices, qui montrent aussi...
c'est le rôle de la collection
qui va les
mettre en
avant. Même photographes de guerre, comme Lee Miller ou des gens comme ça dans ces années 30-40, là-bas.
C'est ça, ouais, un peu avant, un peu après, c'est le rôle de la collection de les mettre en avant. Et la mise en couleur est très réussie. J'ai beaucoup aimé, c'est ce ton un petit peu sépia, un peu fondu au noir qui nous imprègne vraiment dans l'époque et dans le récit.
C'est ce que je dis, on sent l'ambiance hein, quand même quand on voit les planches. Il y a ce petit côté un peu passé là.
C'est ça.
Puis il y a des bibliothèques colossales sur les murs, ce qui n'est plus trop d'époque, sauf chez Monsieur Vivien.
Oui, un petit peu à la maison, oui. Le travail de documentation est formidable et nous plonge vraiment dans la réalité de l'époque avec les voitures, les bâtiments, tout ça. C'est pas quelque chose qui a été pris à la légère parce qu'on aurait pu uniquement se focaliser sur le travail de journaliste et juste la mettre dans un asile, tout simplement. Mmh. Mais non, quand on est hors de l'asile, quand on est dans le New York des années 20, on va dire 10-20, eh ben on est vraiment dans cette réalité-là, c'est plutôt intéressant. Et puis il y a des cases qui sont véritablement marquantes. Alors on ne la verra pas là à l'image, mais je vais vous la décrire. Il y a un passage dans l'asile où on appelle, il y a les encordés, c'est les démentes, on va dire, plus, entre guillemets, qui sont vraiment atteintes. Mmh. Donc
elles peuvent être dangereuses pour elle.
Dangereuses pour
elle,
pour les autres. Il y a de la trisomie. Et la trisomie, à l'époque, c'était vraiment mal vu. Hein. Mm-hmm. C'était vraiment dégénéré, entre guillemets, alors que ça ne l'était pas. Et en fait, ils attachent ces pauvres malheureuses-là et ils les frappent. Parce que, bah, malheureusement, bah, pour eux, il n'y a que cette solution-là. Et c'est des cases qui sont marquantes parce que ça montre l'évolution de la médecine et surtout de l'acceptation de
la maladie mentale.
De la maladie mentale, en fait.
Bah oui, c'est vrai qu'on a complètement changé, même si on sait toujours pas trop quoi faire.
Il y a des choses qui sont terribles, parce qu'il y a des gens qui sont très dangereux. Mais en tout cas, on va essayer d'abord de soigner avant de privilégier une violence.
Ouais, c'est de la torture, hein, quand c'est on ça, voit absolument. L'histoire de Frances aussi avec la lobotomie, tout ça.
Il y a une case qui monte dans l'album où en fait, il les plonge dans des bains d'eau glacée pour les accueillir, entre guillemets. Et ça aussi, c'est de la torture, quoi. Et
les électrochocs, tout ça. Enfin bon. Alors, la conclusion, monsieur, j'ai l'impression que Pionnière de Nelly Bly,
sur Nelly Bly,
on dit, aux éditions Soleil, vous a subjugué, mon cher ami.
Alors, subjugué, le mot est un peu fort, mais m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est un bon tome de rentrée. C'est un bon tome qui va présenter la collection. Parce que du coup, le tome 1 manquait un tout petit peu de panache, entre guillemets. Mais celui-ci, en tout cas, il donne envie de découvrir la collection. Il donne envie de découvrir les précédents et les prochains tomes. Il y a un travail fabuleux de Nicolas Jarry au scénario et aussi de Tavernier au dessin, qui est un dessin efficace et sérieux. Il s'est vraiment concentré à faire un tome qui soit vraiment, encore une fois, efficace.
Bien, bravo. Ouais. Oh là là. Le tome 1, c'est une question de goût aussi, parce que si les gens aiment l'océanographie,
voilà, c'est ça.
Si le lecteur aime l'océanographie...
Particulièrement voilà. Marqué, parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas et qui ne m'intéresse pas forcément, mais en tout cas, qui avait le mérite en tout cas, de montrer le travail et l'implication d'Anna Conti dans ce domaine-là.
D'accord. En tous les cas, c'est un très beau, une très belle série pour découvrir des femmes, des pionnières justement, dans leur style, dans leur catégorie, dans leur activité.
Et il y en aura d'autres à partir de, je crois qu'il y en a un en novembre qui arrive, et après ce sera janvier et les autres suivront dans la foulée.
Bien. Alors, merci pour cette bande dessinée pionnière, les Blay chez Soleil. Je crois que tu voulais annoncer quelque chose chez nos amis de la Crognotte.
Voilà, c'est ça. La Crognotrieuse organise deux événements de août à septembre. Donc, il y aura une exposition qui a commencé le 31 août de Manuele Fior sur une BD qui s'appelle Celestia, dont je parlerai prochainement à la radio pour pouvoir la promouvoir et inviter les gens à découvrir
la bande dessinée ou la
bande dessinée et la boutique aussi. Voilà. Et l'exposition, voilà, je vais y arriver.
Ah oui, d'accord.
Et il y aura aussi un deuxième auteur qui sera présent au mois de septembre, c'est Dominique Rousseau, pour sa BD sur un des papes à Avignon.
Ah, intéressant aussi.
Voilà.
Tu as vu pendant les vacances, ouais, on a montré beaucoup cette bande dessinée sur l'histoire d'Avignon.
Oui.
C'est un rapport aussi ?
Ça peut avoir un rapport.
On verra.
On le saura prochainement.
Rendez-vous à la Crognotrieuse. Alors, si vous nous regardez en région parisienne ou au Canada, dommage pour vous, hein, la Crognotrieuse, c'est une boutique légendaire d'Avignon.
Alors après, si vous êtes au Canada, à Paris, à Tombouctou ou à Pékin, je ferai un petit reportage photo sur l'exposition que je mettrai sur ma page Facebook et que je transmettrai sur la page de Smos Radio.
Vivien, BD Info, la page Facebook ?
Non, la bibliothèque de Vivien.
La bibliothèque de Vivien. Parfait. Merci beaucoup, monsieur Vivien.
Merci beaucoup, monsieur Serge.
Ravi de vous retrouver.
Mais moi aussi.